19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonjour chers amis auditeurs, merci d'être avec nous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et c'est une très très bonne nouvelle. Les informés, émission spéciale consacrée au séisme donc au Maroc. Et je vous le disais aussi, vous êtes prioritaire, 01 53 48 3000. Alors, le sommaire, ce que je vous propose, c'est retourner sur place. On ira retrouver avec comme notre premier invité le célèbre peintre donc marocain, Mahi Binbin, qui viendra donc nous livrer un petit peu ses sentiments et de la manière dont il vit les choses. Rodolphe Pedro, qui est un expatrié, mais surtout un Français qui a décidé de s'installer au Maroc et il a vécu évidemment vécu des amis à lui qui ont été secoués et qui ont je l'ai cru comprendre évidemment perdu la mort et puis il en parlera tout à l'heure. Myriam Alotmani qui sera avec nous, qui est la présidente d'une association Solidarité, elle sera avec nous en direct donc de Marrakech et la députée donc de Renaissance sera aussi également avec nous, Madame Nadiaé, et vous aussi au 01 53 48 3000. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, et vous le savez, en toute liberté d'expression.
Les informés. L'interview.
L'interview, on démarre cette émission spéciale consacrée au Maroc et le séisme au Maroc avec le célèbre peintre Mahi Binbin. Bonjour, bonsoir, vous êtes au Maroc, merci d'être avec nous. Bonsoir Mahi Binbin.
Bonsoir, comment ça va? Tout va bien?
Très très bien, je vous remercie infiniment. Mahi Binbin, tout d'abord, première question. Avec quelques jours de... on a le recul nécessaire. Comment vous vivez les choses, évidemment, ce séisme, quelques jours après?
Ben, les gens sont quand même un peu sonnés, hein, vraiment. Il y a une solidarité exceptionnelle, on a dû vous le dire... beaucoup, les Marocains se sont mobilisés totalement, tous. Il y a des queues interminables pour donner le son, le sang. Il y a des paniers qui se font partout. Il y a des convois vers la montagne, etc. Il y a une solidarité exceptionnelle. Vraiment, je n'ai jamais vu ça. Vraiment, les gens... Cela dit, quand on marche dans la rue, je ne sais pas si vous connaissez cette heure avant la rupture du jeûne, oui. Où tout le monde est un peu sonné.
Oui, oui.
Les gens sont un peu comme ça quand même. Mm. Quand on marche dans la rue, pendant le ramadan, avant la rupture du jeûne, tout le monde est dans un état bizarre. Mais à côté de ça, tout le monde est mobilisé pour soutenir... Les milliers de sans-abri.
On a été interrompu, c'est évidemment le risque, et vous le savez, les aléas du direct dans cette émission des informés spéciales séisme au Maroc. Nous étions avec donc le peintre connu, hein, extrêmement connu, qui est avec nous. On vous a retrouvé, Mahi Binbin.
Oui.
Alors,
oui.
Je disais, le bilan provisoire pour le moment passe à 2900, un peu plus de 2900 morts et 5530 blessés. Alors, autant dire que le nombre de morts, on a de nouveaux décès qui ont été signalés par le ministre donc, et les différents ministres, mais surtout le ministre de l'Intérieur. Que peut-on dire à ce stade, surtout quand on sait que certaines provinces, comme Al-Azouz, a besoin aujourd'hui d'une urgence concernant évidemment, évidemment les premiers besoins, hein, alimentaires, mais également aussi couverture, hébergement, etc. Qu'est-ce qui se dit?
Oui. Ben, voilà ce qui se passe, c'est que ça se passe dans une région qui est très enclavée. Il y a des éboulements, c'est dans la montagne. Hein. La majeure partie des drames s'est produit dans le Haouz. Et c'est une région très accidentée. Et donc, les routes sont inaccessibles. Maintenant, on fait de notre mieux. C'est-à-dire, l'État... de son mieux. Il y a l'armée qui est mobilisée à 100%. On voit des camions passer toute la journée comme en période de guerre. Mais en fait, c'est une vraie guerre contre le temps qui passe parce que les gens sont en train de mourir. Hein. Il faut dire les choses comme elles sont. Et les chiffres qu'on a sont évidemment très en deçà de ce qui nous attend. On le sait. Et nous sommes un peu sur... sur le terrain. On a une association.
Qu'est-ce qu'elle fait votre Qu'est-ce qu'elle fait votre association, par exemple, sur le terrain? Qu'est-ce que vous, comment vous intervenez?
Ben, on a des vivres déjà, des couvertures, des tentes, des de l'eau. Il y a des endroits où il n'y a pas d'eau, et donc on a des camions et des camions qui partent tous les jours vers la montagne, et voilà, on distribue et les gens dorment dehors, hein, c'est terrible. Et il commence à faire froid là en montagne, même si la journée il fait chaud, le soir il commence à faire très froid. Donc on se bat contre le temps, mais tout le monde est sur le pied de guerre, vraiment. C'est exceptionnel ce qui arrive là en ce moment.
Vous dites que c'est exceptionnel. Qu'est-ce que vous dites, vous, notamment avec votre association, vous êtes sur le terrain, qu'est-ce que les différentes victimes, qu'est-ce que vous avez échangé avec elles? Qu'est-ce qu'ils vous disent précisément, Mahi Benbin?
Ben, les gens parlent doucement et ils te disent, moi j'ai perdu ma femme, mon gosse, mon frère, ma sœur. C'est terrifiant, hein. Et il y a une espèce de résilience. Ils acceptent. Il y a la fatalité, mais il y a aussi la résilience. Les gens acceptent ce qui leur arrive et voilà, ils sont impuissants et c'est comme ça. Il n'y a rien d'autre à dire. Vraiment, il n'y a rien d'autre à dire.
Qu'est-ce que vous avez envie de livrer comme message, vous savez, dans cette émission spéciale ce soir? Partout en France, on vous écoute, mais également aussi au Maroc.
Oui, il faut aider les associations. Il y en a partout. Il y en a une que vous avez dû recevoir hier avec Bouchra, oui. Redjani, oui, Solidarité Maroc. Ils font des choses formidables. Il faut les aider, il faut les soutenir. Voilà, il faut... C'est tout ce qu'on peut faire, hein, pour le moment. Aider matériellement, hein, parce que c'est plus facile d'envoyer des sous que d'envoyer des vivres avec les camions et tout ça. C'est beaucoup plus compliqué. C'est plus facile de les avoir sur place, de les acheter sur place. Donc, soutenez le maximum d'associations qui se battent un peu dans ce sens.
Dans ce sens. Merci infiniment, Mahi Benbin, d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Merci à vous et bon courage avec votre association.
Merci. Merci beaucoup.
Merci infiniment
beaucoup.
Et au plaisir, évidemment, de vous retrouver avec nous. On va continuer, on va poursuivre. Hein. On va aller retrouver donc Rodolphe Pedro, qui sera avec nous dans une poignée de minutes. Mais je vais accueillir notre invité, notamment, qui est avec nous. C'est Younes.
Exactement.
Bonjour Younes. Younes El Adli, président de l'association Kebchi.
Exactement.
Alors, dites-nous un petit peu l'association Kebchi, un peu qu'on sache de quoi, évidemment, elle traite.
Alors, nous, de base, en fait, on est une association qui avait pour vocation de rendre service un petit peu aux personnes de confession musulmane pour l'Aïd. Et donc, on propose un service qui est le mouton de l'Aïd de base, et pour des populations en fait qui changent, parce que les musulmans, les personnes de confession musulmane en France, elles ont tendance à varier et à évoluer. Il y a une évolution socio-économique. Donc, du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on proposait le sacrifice du mouton, et en fait, on le fait en Afrique directement, donc on nourrit des pauvres. Et là, au vu de la situation, entre guillemets, d'extrémité humanitaire, on a décidé d'agir directement sur place. On avait déjà agi en Turquie. On faisait partie des premières associations, etc., rendues sur place. Et là, à l'heure actuelle, nous avons dépêché directement le lendemain des personnes sur place. On a une quarantaine de bénévoles qui travaillent et des membres de l'association. On a fait travailler tous nos réseaux pour essayer d'apporter le maximum d'aide. On est parti dans les coins les plus reculés et on a réussi un petit peu à organiser le travail. Ce que je peux vous dire déjà, premièrement, c'est que nous, on a un peu d'expérience terrain de l'humanitaire. Déjà, je voulais saluer tous les acteurs, qu'ils soient humanitaires ou qu'ils soient même parfois des membres privés ou à titre personnel. Cette année, on a vu un élan de solidarité et de coordination qui n'a jamais eu lieu par le passé. On a, par exemple...
Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Est-ce que c'est les différents... ce qu'on vous fait notamment remonter comme information? J'imagine qu'il y a des paramètres, des indicateurs qui vous disent cela.
Alors, pour vous faire simple, je suis pas censé le dire sur une chaîne publique, mais c'est bien que les gens connaissent les coulisses un petit peu du monde associatif et humanitaire. Avant, il y avait une petite guéguerre entre les associations. Chacun voulait dire, moi je suis le meilleur, donnez à moi, donnez à un tel, etc. Cette année, dans les coulisses, c'est totalement différent. chacun fait ses campagnes, parle, partage, etc. Mais il y a une vraie solidarité, on se donne des coups de main. On s'envoie des informations, on s'envoie des bons tuyaux, on s'envoie des fournisseurs pour acheter au moindre coût. On essaie de se conseiller les uns les autres. On s'apporte même de l'aide sur des points techniques, opérationnels, matériels, logistiques. Et ceci dans le but d'arriver à la même finalité qui est d'aider les plus démunis. L'idée, c'est d'éviter d'avoir un conglomérat de gens qui vont tous au même doigt, entre guillemets, et qui, parce qu'ils sont arrivés au même doigt, simplement pour faire des images, ah voilà, votre don, etc., il a été donné. Et ça a amené des coordinations. Moi, par exemple, je suis dans un groupe WhatsApp, il y a plus de 400 personnes, des membres actifs, qu'ils soient d'associations, d'organisations ou autres. Et ces 400 personnes, eh bien, elles essaient de travailler en collaboration. Donc, on avait fait un groupe WhatsApp. Ensuite, il a été élargi. Ensuite, il y a des sous-groupes qui ont été faits en fonction des besoins, certains pour les fournisseurs, d'autres pour transmettre des kits de survie. Et cette organisation est extrêmement plaisante. Et malgré, entre guillemets, la tristesse de voir les images que je pense que nous avons tous vues, il y a cet élan de solidarité qui est à souligner, notamment pour cette opération, et qui, je l'espère, est le fruit de prémices de choses qui vont arriver de manière positive à l'avenir.
Alors justement, on va en parler parce que vous savez que le bilan provisoire s'élève à 2900 morts, un peu plus d'ailleurs, et 5500 blessés. Vous êtes au courant ?
Oui, bien sûr.
On va en parler ? Parce que vous êtes en lien direct avec le terrain aussi, notamment.
On est en lien direct avec le terrain, effectivement. On a même on a dépêché 6 personnes avec des motocross pour pouvoir faire le tour des douars qui sont inaccessibles. Parce qu'il y a des villages où on peut accéder en camion. Il y a des villages où le camion ne passe plus, c'est le pick-up. Et il y a des villages où le pick-up ne passe plus. Il faut aller soit à dos humain, ou soit on est en train de chercher même des ânes pour monter dans ces villages et apporter les derniers produits.
Alors ne bougez pas, restez avec nous. Donc Younes El Abdi, le président de l'association Kebchi, est avec nous. 0153 48 3000. Nous irons en direction le Maroc juste après la pub. Retrouvez Myriam El Othmani, qui est la présidente d'une association, justement INSAF, vous devez connaître peut-être.
On l'a entendu parler, oui.
Eh bien, à tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et Les Informés, vous le savez, dans cette édition spéciale, émission spéciale consacrée au séisme au Maroc, où le bilan continue de s'alourdir avec un peu plus de 2900 morts et 5500 blessés. En plateau et en studio, le président de l'association Kebchi qui est avec nous, Younes donc El Abdi, qui est avec nous. Merci. Et là... Non, j'ai écorché votre nom, je crois.
El Adli, mais c'est
El Adli, voilà, c'est El Adli. Non, c'est El Adli, non. El Adli, c'est El Adli. Direction le Maroc. Justement, on va accueillir Myriam Othmani, qui est la présidente de l'INSAF. L'INSAF, vous savez, c'est l'Institut National Solidarité faite aux femmes en détresse. Bonsoir, Myriam Othmani. Oui, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes en direct donc du Maroc. De quelle ville précisément, pour qu'on sache, vous êtes où à l'heure où on se parle précisément, madame la présidente ?
Nous, pour l'instant, nous sommes à Casablanca, mais nous travaillons beaucoup pour essayer de soutenir et d'aider la population sinistrée dans plusieurs régions du Maroc.
Alors, madame la présidente Myriam Othmani, juste au moment, aujourd'hui, vous savez qu'il y a urgence, je vous fais part de nouveau de ce bilan qui s'alourdit, qui continue de s'alourdir, de un peu plus de 2900 morts. Quelles sont les différentes réactions au Maroc ? Qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce que vous dites entre vous, les différents acteurs, les partenaires, les victimes ? Qu'est-ce qui se dit, chère madame, chère Myriam Othmani ?
D'abord, beaucoup d'émotions, une profonde tristesse et beaucoup d'admiration pour la réaction de la population. Notre société civile est magnifique. Tout le monde réagit, tout le monde donne son sang. Il y a des kilomètres de vraiment, vous ne pouvez pas vous imaginer l'élan de solidarité extraordinaire dans toute la population. Je suis très, très, très émue et très admirative. On est vraiment un peuple formidable.
Myriam Othmani, vous, présidente justement de l'Institut National de Solidarité Femmes Faites en Détresse, qu'est-ce que vous rencontrez ? Vous avez été sur place, rencontré les victimes, à la fois Marrakech, les villages. Qu'est-ce qui vous a frappé tout d'abord ?
Non, je n'ai pas été sur place moi-même. On est une équipe de plus de 40 personnes rémunérées. On a toute une équipe qui est sur place. Mais au début, ils n'ont pas pu accéder au village parce que au début, les villages étaient, les routes étaient bloquées. Heureusement, le gouvernement a fait beaucoup de choses et maintenant, tout est en train de se débloquer, tout est en train de rentrer dans l'ordre. Mais au début, on n'arrivait pas. Et par contre, au fur et à mesure que ça se débloque, on se rend compte de l'étendue des dégâts et on se rend compte que beaucoup de villages ont été totalement détruits ou partiellement détruits.
Quels sont les premiers besoins, Myriam Othmani, Madame la Présidente,
arrêtez de m'appeler Madame la Présidente, appelez-moi Myriam tout simplement.
Comme vous le souhaitez, il n'y a pas de problème, j'ai aucun problème avec
c'est
ça.
C'est mieux. Les premiers besoins sont des besoins vitaux les gens dorment dehors, les gens n'ont pas mangé, les gens ont tout perdu. Il y a des situations absolument terribles. Heureusement, les associations, mais le gouvernement, l'armée agit. Disons qu'il y a vraiment il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup d'actions positives. Mais la société civile aussi se mobilise. Nous, par exemple, on envoie une remorque tous les jours. On a déjà envoyé plus de 100 tonnes et on continue. Tout à l'heure, on a encore un camion qui part.
Comment s'organise justement là ? Comment vous organisez avec les différents acteurs ? Parce que tout le monde a la même idée, un peu comme vous, d'aller auprès de ces victimes. Comment vous vous organisez avec tous ces camions ? Est-ce qu'il y a une répartition, justement ?
Nous avons fait des appels aux dons et nous avons la chance de recevoir beaucoup de dons. Donc ces dons sont triés, emballés, placés dans des cartons, étiquetés et envoyés dans les régions sinistrées. Ils vont être distribués avec les autorités locales sur place parce que il y a tellement de bonne volonté, mais on peut pas, si vous voulez, les gens ne peuvent pas distribuer n'importe comment. Donc c'est les autorités locales sur place qui nous aident à distribuer dans les régions nécessiteuses. Le problème, c'est qu'il y a tellement de régions nécessiteuses, il y a tellement de villages qu'il faut soutenir, que bon, il faut avancer, se dire que il faut continuer. Et on travaille jour et nuit en ce moment, on n'arrête pas.
Quelle est l'urgence absolue aujourd'hui, Myriam Othmani ?
Eh bien, aujourd'hui, c'est soutenir, c'est aider ces populations. Il va y avoir des camps maintenant. Je pense que le gouvernement va dresser des tentes. Il va y avoir des gens dorment dans la rue. Les villages sinistrés dans les montagnes dorment dans la rue. Et si vous voulez, il y a 3 jours, une de nos assistantes faisait 20 km à pied pour apporter du pain à ses parents. Bon, parce que les routes n'étaient pas déblayées. Maintenant, tout est déblayé. Maintenant, c'est possible d'aider, mais si vous voulez, les gens sont dans la rue.
Certains regrettaient. Myriam Othmani, certains regrettaient justement un manque d'organisation. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Est-ce qu'il faut une meilleure coordination d'organisation ?
Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de coordination. Il y a une grande organisation. Il y a aussi bien le gouvernement, l'armée, la gendarmerie, l'entraide nationale, toutes les grandes institutions, la fondation Mohamed V qui essaye de coordonner le tout. Il y a énormément d'efforts qui sont faits, mais les besoins sont énormes. Vous savez, par exemple, à 30 km de l'épicentre, vous avez 1239 douars. Vous voyez, à 50 km de l'épicentre, vous avez 5000 douars. Donc, si vous voulez, ce sont des chiffres énormes. Vous comprenez, à 10 km, vous en avez 652. Donc, chaque douar est composé de plusieurs familles, bien sûr. Donc, c'est une population très importante. Donc, beaucoup d'efforts sont faits par le gouvernement, mais ce n'est pas suffisant encore. Il faut laisser un peu de temps.
Qu'est-ce que vous avez envie, justement, de livrer comme message, vous, Myriam Othmani, à tous celles et ceux qui vous écoutent, à nos auditeurs ?
Moi, j'ai envie de dire que notre solidarité, ce qui se passe ici, c'est magnifique. J'ai envie de dire, vous savez, chez nous, il n'y a pas un Marocain ou une Marocaine qui ne donne pas une partie de son salaire à ses parents âgés, à la sœur divorcée, au jeune homme qui ne travaille pas. Il y a une, cette solidarité absolument exemplaire. Là, maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est que on va passer dans la deuxième phase, qui est la phase de la reconstruction. Nous, par exemple, dans village de Talat Yakout...
Qui va prendre du temps, vous le confirmez.
Oui, mais on va essayer, on va essayer d'agir rapidement pour que les enfants puissent continuer à aller au collège. Les internats se sont écroulés. Il n'y a plus d'internats. Il faut qu'on les reconstruise très vite. Il faut qu'on se dépêche, qu'on les reconstruise très vite. Donc c'est vrai qu'on a encore besoin de moyens. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'investissent et qui envoient de l'argent et qui essayent d'agir. Et toutes ces actions, même si elles sont dans le désordre, c'est de belles actions.
Vous avez parlé des écoles, justement. C'est 500, un peu plus de 530 écoles qui sont touchées.
Oui.
Et effectivement, et c'est une priorité.
Je pense que l'éducation... Oui, bien sûr, mais le ministère va certainement prendre toutes les mesures qui s'imposent et que tout va être fait. Tout va être fait. On a de l'aide aussi.
Merci.
De l'aide internationale aussi.
Merci, Mme Othmani. Vous êtes la présidente de l'INSAF, l'Institut national de solidarité faite aux femmes en détresse. Merci, Mme Othmani. Bon courage pour vos équipes et vous-même.
Merci.
Merci, à très bientôt. Nous étions donc au Maroc, 19h28, au revoir. Younes, justement, vous, président de l'association Kepsi, là pour le coup, monsieur le président.
Younes également.
Voilà, exactement comme Myriam Othmani. Younes El Adli, qu'est-ce que ça vous fait réagir ce que vient de dire Myriam Othmani?
Alors, personnellement, j'ai pas la chance d'être au Maroc. J'aurais aimé y être et d'être proche des populations. D'habitude, on voyage pour les opérations humanitaires. Là, on a dépêché d'autres équipes. Oui, ça me parle énormément, la solidarité. La solidarité fait partie intrinsèquement de la culture, je dirais, globalement maghrébine ou africaine, et on la ressent totalement. On la ressent à toutes les échelles sociales, à toutes les strates. Et en fait, quand vous parlez tout à l'heure d'un manque d'organisation, effectivement, tout le monde a été pris de court. Donc au début, le temps que les choses se mettent en place, ça a été très chaotique, je le conçois dans les premières heures. Mais maintenant, je vous parlais notamment d'un potentiel de certains groupes WhatsApp, d'une certaine organisation, d'une coordination. Vous parlez d'urgence absolue. Les premières urgences qu'il y a, c'est la nourriture. Il y a des douars où les gens n'ont toujours pas mangé. Et où on a j'ai des témoignages, moi, de mes équipes qui me disent, on arrive, on voit des gens qui nous disent dans la ruine, là, il y a ma famille. Ils sentent des auteurs pétris, ils essaient de les retirer. J'ai des personnes de France qui ont retiré des corps à bras de corps. Et qui ont essayé d'apporter le minimum d'assistance. Il y a du déblaiement à faire.
On parle de couverture aussi, on parle de tentes.
De couverture également.
Et de tentes.
Les tentes, la chance qu'on a, on a contacté des grandes ONG avec qui on a travaillé en Turquie. Et elles sont en train d'acheminer depuis la Turquie des tentes vers le Maroc. On parle de plusieurs conteneurs qui vont arriver. Je pense que également, si les autorités sont en train de débloquer une quantité de tentes importante. Marrakech est en rupture totale de tentes. Il n'y a plus de tentes à Marrakech. On a dépêché des gens justement dans d'autres villes comme Casablanca ou autres pour essayer d'en
trouver. Donc les tentes, là, il y a...
Rupture à Casablanca.
Rupture.
Ouais. Ouais. On a même trouvé des contacts de fabricants qui en fabriquent 3-4 par jour et directement.
Et bien sûr, l'eau et tout le reste.
Tous les produits de première nécessité, d'hygiène pour les hommes, pour les femmes, notamment pour les enfants. C'est des choses qui sont importantes. Mais typiquement, j'ai reçu un appel d'un douar où les femmes étaient en pleurs parce qu'elles avaient des enfants de bas âge et ces enfants n'avaient pas mangé, ils n'avaient pas où se couvrir. C'était des situations qui étaient extrêmement difficiles.
Restez avec moi, Younes El Adli. On va accueillir, vous savez quoi, Stéphanie Cassan, qui est très impliquée justement au Maroc. Bonjour Stéphanie Cassan.
Bonjour Adil.
Vous vivez à Marrakech, vous êtes une femme de communication justement. Vous avez beaucoup, vous êtes très engagée sur les questions des femmes notamment. Dites-nous un petit peu comment vous avez vécu ce séisme au Maroc.
Bien, Adil, actuellement j'étais en France et c'est assez dur d'être loin de notre pays puisque nous sommes résidents au Maroc depuis de nombreuses années et nous soutenons en effet plusieurs associations, mais une particulièrement qui œuvre pour la scolarisation des petites filles des zones rurales dans la région d'Azilal qui a été touchée. Et nous avons, puisque vraiment l'important c'est de parler de cette catastrophe et de ce qu'il faut faire, Donc, nous avons contacté tout de suite l'association que nous aidons depuis plus de 3 ans à la suite de l'événement que nous avons lancé avec Nathalie Heller-Loufrani, et c'est Lady Berber. Nous avons appris que nos Lady Berber étaient en sécurité, mais que 2 villages avaient été complètement rasés. Et dans ces villages, il y a des parents de petites filles que nous aidons et qui sont suivies par l'association Sémnide. Et les parents complètement désœuvrés, le premier réflexe est de dire l'école c'est fini, revenez à la maison, mais il n'y a plus de maison. Donc nous on essaye d'agir en fait au plus près pour 2 choses. Envoyer en effet, comme l'ont dit vos deux invités précédents, oui, de l'eau, de la nourriture et des tentes, des couvertures dans un premier temps. C'est l'essence même de notre action depuis samedi. Et ensuite, essayer de ramener des fonds pour reconstruire. Parce que ce qui est important, c'est aussi de reconstruire ces villages qui sont complètement... Il y a eu des morts incroyables, évidemment, sous les décombres. Donc, voilà. La première action, c'est d'aller au plus pressé, c'est-à-dire de donner de l'eau, de la nourriture, des tentes,
c'est ce que j'ai cru comprendre. Hein. Younes, ouais, aujourd'hui, nous disait qu'il avait un contact sur place, le président de l'association Kepsi, qui insistait sur le fait qu'il y avait une rupture de tentes.
Voilà. Alors justement, donc, on a mis en place, là, moi, je repars au Maroc samedi, et avec des tentes qu'on a achetées en France. On a un camion qui va partir. Alors, on nous a demandé dans un premier temps des tentes faciles à installer. On n'a pas la capacité, nous, nous sommes des particuliers. Donc on achète des tentes pour accueillir des femmes et des enfants dans un premier temps. Et puis, on verra dans un deuxième temps pour faire venir des tentes plus militaires, on va dire, pour accueillir davantage de familles. Parce qu'en fait, ce qui est important de dire pour vos éditeurs, c'est que cette catastrophe, elle est soudaine, mais elle va durer. Et elle va durer dans le temps, on le sait. C'est évident que aujourd'hui, la communauté internationale est très impliquée. On voit la France est très participante. On voit des sauveteurs, des infirmières. Là, j'ai appris par une autre association dont je suis assez proche, l'association Entraide, que depuis le 9 septembre, ils ont organisé des collectes de matériel, de denrées alimentaires, et qu'ils accompagnent aussi des soignants. À partir de demain, il y a 90 infirmières et médecins qui arrivent au Maroc. Et puis, cette reconstruction, parce que la scolarité, pour moi, est essentielle. Et c'est vrai, Adil, je suis particulièrement... Vous avez parlé des femmes et des petites filles. Je suis particulièrement touchée par ce qui se passe et par l'action qu'il faut mener envers les femmes et envers les petites filles. Et nous avons décidé de soutenir une autre association, celle de Al-Azouz, qui est dédiée à l'amélioration de la vie des habitants depuis plusieurs années et qui est menée par l'artiste peintre Mohamed Mouradi. Cet après-midi, j'ai encore échangé avec lui. Il est au milieu des décombres dans les villages Okitanaout, qui a été particulièrement touché. Il apportait de l'eau, de la nourriture et participait à l'effort national de la reconstruction. Et en fait, il m'a dit une chose, il m'a dit: Stéphanie, il faut qu'on agisse pour que les écoles, pour reconstruire les écoles. Les écoles, c'est presque aussi important que l'habitat. Parce que il ne faut pas que ces enfants des villages reculés et isolés perdent le fil.
D'une phrase, voilà. Pardonnez-moi, d'une phrase, parce que je dois lancer une pause. D'une phrase, non, mais je comprends aussi, c'est l'émotion. D'une phrase, Stéphanie, mais vraiment d'une phrase, qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui nous écoutent?
Écoutez, il y a énormément de solidarité, énormément d'associations qui œuvrent. essayer de cadrer sur aujourd'hui le besoin immédiat. Aujourd'hui, là, nous sommes le 12 septembre, pardon. Eh bien, parce que le 11 septembre, ça nous rappelle d'autres catastrophes. Mais nous sommes le 12 septembre. Aujourd'hui, si vous voulez envoyer des dons, faites-le avec des associations qui sont connues, qui sont reconnues. Le Royaume du Maroc fait tout ce qu'il peut. C'est venu soudainement, donc c'est pas la peine de tergiverser pour dire qu'il y a une mauvaise organisation. C'est pas vrai, c'est pas possible. Donc il faut aller au cœur appeler des gens qui sont sur place.
Oui.
Marrakech, parce qu'au fil des semaines, Adil, il va y avoir des besoins qui diffèrent.
Donc, on continuera, mais de toute façon, on continuera à en parler sur notre antenne. Merci infiniment,
merci beaucoup,
Stéphanie Cassan, et bon courage pour votre association et pour tout. Hein. Merci à vous, et on se retrouvera très prochainement sur notre antenne. On lance une pause et on se retrouve avec la députée Nadia, Madame Nadia. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
19h44 précisément, si vous venez de nous retrouver dans cette émission spéciale. Émission spéciale consacrée au séisme au Maroc. Autre sujet d'actualité, vous le savez, on parlait aussi de la Libye qui a vécu un effondrement. On parle aussi de 2300 morts. Donc, pays voisin, pas très très loin. Donc, cela dit, donc, on parle du continent africain. Younes, dites-moi, vous, le président de l'association Kebchi, aujourd'hui, comment, avec le dispositif que vous avez sur place et les différentes, évidemment, étroites relations que vous avez avec les partenaires locaux, qu'est-ce que, aujourd'hui, vous en êtes où précisément dans cette organisation? Vous avez parlé de tentes, mais aujourd'hui, est-ce que vous-même, l'association Kebchi, vous-même, vous allez vous y rendre? Est-ce qu'il va se produire, qu'est-ce qui va se produire dans les semaines, dans les jours, dans les mois à venir? Est-ce que vous allez faire héberger ces victimes, etc.?
Alors, dans un premier temps, on traite l'urgence. Concrètement, la reconstruction est dans la tête et dans les esprits de tout le monde, mais c'est pas l'immédiat. L'immédiat, c'est que les gens puissent manger, puissent boire, puissent se couvrir, parce que là, on a eu des rapports météorologiques qui prédisent des pluies dans les jours qui viennent. Et même quand on parlait de tentes et de lits, on est même en train de chercher comment surélever les matelas pour en faire en sorte que même s'il y a une pluie diluvienne ou autre, qu'il y a de la boue, les gens peuvent entre guillemets rester quand même au sec. D'accord ? Donc ça, c'est la priorité pour nous, zéro. Par la suite, c'est le déblaiement. Le fait de permettre de sortir les personnes qui sont encore sous terre. Là, alors je vous parle, chaque seconde est comptée, on peut encore sortir des survivants. En Turquie, on pensait qu'au bout de 7 jours, on allait retrouver personne. Et je crois qu'au bout de 10 jours, il y avait encore des personnes qu'on arrivait à faire sortir et qui étaient des miraculés, entre guillemets, si je puis me permettre. Donc ça, c'est le second volet. D'abord, ceux qui sont rescapés. Mmh. Ensuite, essayer de chercher à sauver le maximum. Et ensuite, potentiellement, réfléchir à reconstruire, que ce soit les écoles, que ce soit les abris de fortune et tout ce qui s'ensuit. Donc nos équipes sont dépêchées à ce niveau et elles font de leur mieux pour y arriver.
Évidemment, ils vont suivre tout cela sur Beurre FM. Absolument. À 19h46, on va recevoir donc dans cette émission spéciale consacrée au séisme au Maroc, Madame Nadia Aïd, qui est le députée pour Renaissance. Donc, vous le savez, dans la 11e circonscription des Yvelines. Bonjour, Madame Nadia Aïd.
Bonsoir, Adil Farkan.
Bonsoir, vous allez bien tout d'abord?
Ça va et vous-même?
Je vous remercie infiniment dans cette émission spéciale. Vous êtes à la fois députée, mais vous êtes aussi la vice-présidente de la commission franco-marocaine. Vous, madame la députée, madame Nadia, tout d'abord, est-ce que vous avez eu un échange avec vos homologues, avec d'autres acteurs politiques sur place là-bas au Maroc? Et qu'est-ce que vous vous êtes dit?
Oui, bien sûr, et j'échange aussi avec les services de l'ambassade du Maroc en France. Alors, ce qu'on se dit d'abord, c'est le soutien que nous apportons à la tragédie qui traverse le Maroc, notre solidarité totale et l'émotion qui nous touche au premier plan de voir le Maroc, ce pays ami, frère, subir un tel désastre et une telle tragédie. Donc ça, c'est effectivement d'abord partager ce mot de soutien et de solidarité. Et ensuite, on essaye d'organiser tout cet élan de solidarité qui s'est élevé en France, le faire parvenir au Maroc, À travers les tissus associatifs, ONG et acteurs économiques.
Et je sais tout ce que vous dites ici dans cette émission spéciale. J'ai cru savoir aussi que c'est y compris avec l'adhésion du président de la République Emmanuel Macron, avec lequel vous avez échangé. Et il y a aussi évidemment dans votre discours, comment dirais-je, cette cohésion avec le président.
Oui, le président de la République s'est exprimé publiquement à ce sujet. D'ailleurs, il a été un des premiers chefs d'État à réagir très vite sur le drame qui touche le Maroc. Il a exprimé à plusieurs reprises d'abord son amitié, son soutien, sa profonde solidarité avec le peuple marocain et le roi du Maroc. Et là également, il s'est montré à disposition d'apporter toute l'aide nécessaire que le Maroc jugera utile à plusieurs reprises. Et donc nous, membres de la majorité présidentielle, également à travers la voix de la ministre des Affaires étrangères, eh bien nous relayons ce message du président de la République qui se tient aujourd'hui aux côtés des Marocains et en dehors de tout ce qu'on peut entendre en termes de polémique sur le sujet. Et on voit aujourd'hui qu'il y a un débat qui est totalement incompréhensible, un débat qui est déplacé, indécent, sur le fait que le Maroc n'ait pas répondu aujourd'hui immédiatement à l'aide qui a été proposée par la France, un débat qui est porté par certains médias français, par d'autres aussi analystes ou spécialistes de je ne sais quoi, qui portent aujourd'hui un discours qui est une polémique totalement déplacée et indécente par rapport au drame que vivent aujourd'hui les Marocains, la douleur qui touche au-delà des milliers de personnes concernées. Ce sont des millions de personnes qui sont impactées, parce qu'on a forcément des membres de notre famille au Maroc, on a forcément des amis au Maroc, ou on a des partenaires avec qui l'on travaille au Maroc. C'est un pays qui est incroyable.
Vous dites que la polémique n'a pas lieu d'être, c'est ça
Elle n'a absolument pas lieu d'être. En tout cas, elle n'est pas portée aujourd'hui par la majorité présidentielle et encore moins par le président de la République. Il a, encore une fois, dit très vite...
Donc vous nous confirmez ce soir, dans cette émission spéciale, qu'il n'y a ni polémique et que surtout, y compris lorsque, évidemment, Paris propose son aide et que Rabat préfère s'en passer, à aucun moment, effectivement, il est question de parler d'un sujet de débat ou de polémique. Hein. Vous nous le confirmez ?
Non, absolument pas, de la part, en tout cas, des responsables politiques que nous sommes, de la part du président de la République ou du Quai d'Orsay, donc ou de la ministre des Affaires étrangères. Elle s'est d'ailleurs exprimée à ce sujet publiquement, et elle ne dit pas autre chose que ce que je vous dis ce soir, c'est-à-dire une amitié, une solidarité réitérée, un soutien et une aide qui est là et qui sera là au moment où le Maroc le jugera utile. Quand on entend... donc là aussi, c'est un appel que je lance. Il ne faut pas confondre tout ce qui se dit sur des plateaux parisiens de télé ou sur des articles de journaux pour le prendre comme argent comptant de la position de la France par rapport à ce qui se passe au Maroc. Et je l'ai rappelé encore hier soir auprès d'un média français que faire cela, c'est contribuer à alimenter certaines peut-être difficultés qu'on peut rencontrer, et ça nuit à la diplomatie entre les deux pays. Donc il ne faut pas aujourd'hui tenir des propos qui sont complètement indécents, qui sont déplacés par rapport à une situation qui nous touche tous, par rapport à un drame qui nous touche tous, et en faire finalement l'objet même de la position de la France vis-à-vis du Royaume du Maroc. Vraiment, j'insiste sur ce point, il ne faut pas tout confondre. Les médias et les analystes et ceux qui se succèdent, et les éditorialistes et les commentateurs tiennent les propos qu'ils souhaitent, mais ce n'est absolument pas la position diplomatique de la France, et encore moins celle de la majorité présidentielle.
Vous, madame la députée, madame Nadia, comment comptez-vous vous organiser justement très vite, là, prochainement, pour apporter peut-être l'aide nécessaire aux victimes comment, dans votre position, comment vous pouvez faire bouger les lignes?
Alors, ce que j'ai dit aussi, c'est qu'il y a la voie officielle, celle qui passe par les ouvertures de cellules de crise dans les différents ministères des Affaires étrangères. Cette voie-là, pour le moment, elle n'est pas ouverte. puisque le Maroc n'a pas sollicité immédiatement l'aide de la France. Donc nous passons par tous les acteurs aujourd'hui associatifs, mais également des entreprises qui sont installées au Maroc. Et on essaye aujourd'hui, moi ce que j'essaye de faire à mon niveau, c'est de centraliser un peu toutes les demandes qui me parviennent d'un certain nombre de personnes généreuses qui souhaitent aider, qui souhaitent soutenir le Maroc et être aux côtés du peuple marocain avec un certain nombre de produits médicaux, des produits également d'hygiène, avec des matelas, des tentes, tout ce dont a besoin aujourd'hui immédiatement les Marocains. Et donc nous sommes en train de lister l'ensemble des produits, une liste qui va parvenir à l'ambassade du Maroc pour pouvoir obtenir toutes les autorisations et acheminer cette aide directement sur place.
Merci Nadia et merci Madame la députée.
Merci à vous.
Merci d'avoir été avec nous durant cette émission spéciale. Younes Elad Li, président de l'association Kebchi. Qu'est-ce que le mot vous revient, le mot de la fin vous revient? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous celles et ceux qui nous écoutent?
Bah écoutez, j'ai envie de dire à déjà ceux qui se sont déployés, qui se sont mobilisés, de continuer, de ne pas se laisser parasiter par tout ce qui a pu s'entendre ou toutes les velléités.
Ou par la chose politique.
Exactement.
Ou les velléités politiques, effectivement.
Toutes les velléités politiques, laissons-les aux politiciens. Nous sommes là pour œuvrer pour l'humain, quelle que soit son origine, quelle que soit son ethnie, sa religion. Nous sommes là pour sauver des vies. Et donc, nous
devons. Les politiques pour les politiciens.
Exactement.
Et le reste, c'est.
Et l'humain pour l'humain.
Voilà.
Donc restons focalisés sur l'humain, faisons de notre mieux, essayons d'être organisés, d'être intelligents et intelligibles. Je vous parlais, malheureusement, peut-être qu'on pourra le développer dans une potentielle future entrevue, mais il y a une ingénierie qui se développe autour de l'humanitaire. C'est une vocation, ce n'est pas simplement quelqu'un qui prend son bâton de pèlerin et qui va. Donc faites confiance aux acteurs locaux, faites de votre maximum et continuez, et que Dieu accepte de tout.
Merci Younes.
Je vous en prie.
Et bon courage.
Merci beaucoup.
Younes El Adli, le président de l'association Kebchi. Merci. Et au plaisir de vous retrouver ici, bien sûr, absolument. Eh bien, écoutez, merci à tous et celles qui nous ont écoutés. Demain, je vais ouvrir davantage le micro, parce que je voudrais vous entendre, vous, les auditeurs, qui nous écoutez partout en France. C'est très, très important. À demain avec autant de plaisir. On ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.